VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 juillet 2016, en direct de Washington DC, Eric Manilakis en votre compagnie. Dernière soirée hier de la convention d'investiture républicaine à Cleveland, le retour à la sécurité aux États-Unis est la priorité de Donald Trump. Voilà, c'est la présidentielle américaine 2016. Le républicain Donald Trump a accepté avec humilité et gratitude, a-t-il dit, l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle de novembre. Dans un discours devant la convention républicaine à Cleveland, le milliardaire a promis la sécurité, prospérité et paix, ainsi qu'un pays où règne l'ordre public. Compte rendu d'Idrissa Seydoudia, un de nos envoyés spéciaux sur place.
Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination.
Donald Trump, disant aux délégués à la convention du Parti républicain qu'il acceptait avec humilité et gratitude leur nomination pour la présidence des États-Unis. Il a ensuite prononcé un discours axé sur la sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis en se fondant sur de récentes attaques terroristes et actes de violence.
I have a message for all of you.
J'ai un message pour vous tous. La criminalité et la violence qui affligent aujourd'hui notre pays prendront bientôt fin. À partir du 20 janvier 2017, la sécurité sera restaurée. Monsieur Trump a ensuite cité des statistiques montrant, selon lui, la détérioration de la situation sécuritaire à travers le pays et il s'est autoproclamé le candidat de la loi et de l'ordre. Il a parlé d'une augmentation de 17% des homicides dans les 50 plus grandes villes des États-Unis et une augmentation de presque 50% du nombre de membres des forces de l'ordre tués par rapport à l'année dernière. Il a cité le meurtre de policiers à Dallas, Baton Rouge et dans d'autres parties du pays, ainsi que les actes terroristes à Orlando et San Bernardino, contre le marathon de Boston et un centre de recrutement de l'armée à Chattanooga, dans le Tennessee. Donald Trump a de nouveau dénoncé l'immigration illégale, soulignant qu'environ 180 000 clandestins avec des antécédents criminels, dont l'expulsion a été ordonnée, sillonnent en toute liberté le pays pour menacer des citoyens pacifiques. Il va construire son mur à la frontière. Selon lui, la situation n'est guère meilleure à l'étranger et il en a rejeté la responsabilité sur le président Barack Obama et sa décision de confier les affaires étrangères à Hillary Clinton qui ne nous a laissé que la mort, la destruction, le terrorisme et la faiblesse. En 2009, a-t-il dit, le groupe État islamique n'existait pas.
Libya was stable. Egypt was peaceful. Iraq was seeing and really a big reduction in violence.
La Libye coopérait, l'Égypte connaissait la paix, l'Irak voyait une réduction de la violence, les sanctions étouffaient l'Iran, la Syrie était sous contrôle après 4 ans d'Hillary Clinton. Qu'avons-nous? La Libye est en ruine et on a laissé notre ambassadeur et son personnel mourir, succomber à des tueurs sauvages. L'Égypte a été remise aux frères musulmans radicaux, forcément les militaires à reprendre le pouvoir. C'est le chaos en Irak, s'est écrié M. Trump. Sa solution face à ces résultats, eh bien un plan basé sur l'Amérique d'abord.
Americanism, not globalism, will be our credo.
L'américanisme et non pas le mondialisme sera notre credo. Et tant que nous serons dirigés par des politiciens qui ne considèrent pas l'Amérique d'abord, nous pouvons être sûrs d'une chose, les autres nations ne traiteront pas l'Amérique avec le respect qu'elle mérite et cela changera en 2017. Monsieur Trump a dit clairement qu'il est contre toute construction d'État et de changement de régime à l'étranger. Et il a répété son intention de suspendre toute immigration de toute nation, et je cite, « compromise par le terrorisme ». Nous devons abandonner les politiques ratées de construction de nations et de changement de régime qu'Hillary Clinton a préconisé en Irak, en Égypte et en Syrie. Il nous faudra plutôt travailler avec tous nos alliés qui partagent notre objectif, la destruction dissolution de l'État islamique et l'éradication de la terreur islamique. Ce sera la victoire et rapidement. Monsieur Trump est revenu sur les thèmes de sa campagne, les accords commerciaux qui ont coûté leurs emplois à de nombreux Américains, les laissés pour compte dont il est désormais la voix, a-t-il promis. Selon Monsieur Trump, les politiques de Monsieur Obama n'ont eu qu'un résultat, exacerber la pauvreté dans les communautés noires des grandes villes américaines. Il a encore dénoncé un système corrompu qui, selon lui, a permis à Hillary Clinton d'échapper à la justice dans le cas des emails privés et qu'il a accusé de trafic d'influence auprès des intérêts spéciaux américains et de puissances étrangères. En conclusion, le candidat républicain a encore promis:
We will make America proud again.
Nous restituerons à l'Amérique sa fierté, nous restituerons à l'Amérique sa sécurité et nous restituerons à l'Amérique sa grandeur.
God bless you and good night. I love you.
C'était Idriss Assadudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Pour savoir la réaction suscitée par le discours de Donald Trump, Nicolas Pino a tendu le micro à certaines personnes dans la salle où se tenait la convention républicaine.
Alors que les ballons et les confettis inondent la salle, les supporters de Donald Trump exultent. Leur candidat a livré une performance convaincante, selon eux. Avec sa casquette rouge sur la tête, Terry Nicholson est comblée. Elle est venue de Nashville, Tennessee. Elle explique qu'elle a trouvé le discours super, il a fait un excellent travail. Il a dit ce qu'il ferait pour l'immigration et a eu plus d'explications sur ce qu'il ferait pour remettre l'Amérique en marche et restaurer sa grandeur, explique Terry Nicholson. Un peu plus loin, avec son chapeau texan sur la tête, Steve Garner est lui aussi satisfait. Je pense qu'il a fait un travail merveilleux en disant ce que le public américain voulait entendre en tant que républicain. Il a été très spécifique sur ce qu'il voulait faire les 100 premiers jours de son mandat. Les choses qui sont importantes pour nous, la sécurité aux frontières, et quelque chose qui ne va vraiment pas, le système de santé, explique Steve Garner. Le coup d'envoi de la deuxième partie de la campagne est lancé avant les élections de novembre prochain. Nicolas Pino, Cleveland, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité en Afrique, regain de violences meurtrières dans le centre et le nord du Mali. Des combats ont opposé hier à Kidal un groupe d'autodéfense pro-gouvernementale de Gatia et l'ex-rébellion la SEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, la dominante Touareg. Pourtant, leur leader Al-Gabas Ag Intala et le général Gamou ont annoncé dimanche à Niamey avoir conclu un accord. Pour un témoignage, Idriss Fall, adjoint à Kidal, Ambeiri Agrissa, un notable Touareg, est responsable au sein de la SEMA.
À Kidal, il se passe des combats entre une formation militaire appelée Gatia et la SEMA, la coordination des mouvements de la ZOAD. Bon, il y avait déjà des tensions, il y avait une tension, des tensions qui grandissaient, qui évoluaient de mal en pis. Il y a deux nuits, il y a un élément de la SEMA qui a été abattu par des éléments de Gatia. Ça a fait monter la tension. On pensait qu'on était sur la voie de l'apaisement. Tout d'un coup, dans cet après-midi, des tirs ont éclaté dans la ville. Au moment où vous me parlez, les combats n'ont pas cessé, même si l'intensité des tirs a baissé.
Al-Gabas Ag Intala et le général Gambou avaient conclu un accord dimanche dernier à Niamey, non?
Oui, alors Bas et d'autres compagnons venaient juste de nous faire le compte-rendu de la réunion de Niamey. On venait de cette réunion-là. Quelques temps après, les tirs ont éclaté dans la ville.
Est-ce que ça signifie que cet accord il est devenu caduque ou bien?
Bon, quand il y a des tirs nourris comme ça pendant près de 2 heures de temps, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut valoir encore un tel accord.
Ce sont les tirs qu'on entend là?
Tout à fait, tout à fait.
Ambeiri Agarissa, un notable Touareg responsable au sein de la SEMA à Kidal. En Libye, le chef de l'aviation des forces loyales, le gouvernement basé de l'Est libyen, non reconnu par la communauté internationale, a confirmé hier la présence des soldats français, britanniques et américains en Libye pour surveiller, dit-il, le groupe État islamique. Le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé hier son rival, le vice-président Riek Machar, à rentrer dans la capitale pour relancer le processus de paix. Monsieur Machar a fui Djouba après de violents combats entre leurs troupes respectives. Les précisions de John Lyndon.
J'appelle Riek Machar à rentrer à Djouba pour que nous puissions poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix. Comme vous le savez, cet accord a besoin de nous deux pour être appliqué, a déclaré Salva Kiir dans un communiqué lu à la presse. Il a répété être à 100% déterminé à assurer la sécurité de Riek Machar à Djouba et a dit attendre une réponse dans les 48 heures. Riek Machar a quitté Djouba après les combats meurtriers qui ont opposé du 8 au 11 juillet ses troupes à celles de Salva Kiir. Ces violences ont fait au moins 300 morts et ont mis en péril le fragile accord de paix conclu en août 2015 pour mettre un terme à une guerre civile débutée en décembre 2013. Avec cet appel, le président Salva Kiir paraît déterminé à capitaliser sur l'absence de Riek Machar et sur les fissures qui ont commencé à apparaître dans les rangs de l'ex-chef rebelle.
John Lindon, le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé hier que le gouvernement était en pourparlers avec les rebelles responsables d'attaques d'infrastructures pétrolières dans le sud du pays pour trouver une solution à l'insécurité dans la région. Ces attaques ont miné le secteur pétrolier. Le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger, NDA, a revendiqué la plupart des attaques perpétrées depuis février contre la compagnie pétrolière nationale de NNPC ainsi que les groupes étrangers Shell, Chevron et Eni. Au Zimbabwe, les anciens combattants soutien traditionnel et inconditionnel du président Mugabe dénoncent son attitude dictatoriale presque du jamais vu, n'est-ce pas, Tatiana Mousso?
L'Association des vétérans de la guerre de libération du Zimbabwe exprime son inquiétude, son choc et sa totale consternation face au renforcement de ce qu'elle qualifie de tendance dictatoriale incarnée par le président. Les anciens combattants préviennent qu'ils ne soutiendraient pas un tel dirigeant lors de l'élection de 2018. À 92 ans, le président Mugabe, qui est le plus vieux chef d'État encore en exercice au monde, compte se représenter à la présidentielle de 2018. Dans un texte inédit et au ton très ferme, l'association l'accuse d'être responsable de l'énorme souffrance de la population pour servir son auto-glorification et celle de ses complices. Les vétérans ont toujours été un soutien de taille et le socle de la politique nationaliste du gouvernement de Harare. Ils ont joué un rôle capital dans l'expropriation des fermes appartenant à des Blancs. Cette réforme agraire controversée a provoqué une chute drastique de la production agricole de l'ancien grenier à céréales de la région. Ces dernières semaines, le pays a connu une série de grèves et manifestations pour protester contre la crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis le début des années 2000.
Le Parlement gambien a voté une loi réprimant le mariage des enfants. C'est après deux semaines, après une déclaration du président Yahya Jammeh prohibant cette pratique. Au Sénégal, une dame et ses trois gamins faisant la manche ont été embarqués dans un bus par des assistants sociaux à Dakar. Une scène courante depuis plusieurs jours dans la capitale sénégalaise où l'État mène une opération dite de retrait des enfants dans la rue pour éliminer la mendicité. Ailleurs dans le monde, les 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité ont commencé hier le long et laborieux processus de sélection du successeur de Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Arzuma Compaoré a les détails.
Ce premier vote à huis clos et à bulletin secret sera suivi de nombreux autres pour départager 12 candidats, dont 6 femmes et 6 hommes. Parmi les figures de proue, la néo-zélandaise Hélène Clark, Susana Malcora, ministre argentine des Affaires étrangères, l'ex-président slovène Danilo Turk et le portugais Antonio Guterres, ancien patron du HCR. L'ambassadrice américaine Samantha Power a dressé un portrait robot parlant de quelqu'un doté de grandes qualités de dirigeant, d'une grande compétence de gestionnaire, attaché à la justice et aux principes des Nations Unies. L'ambassadeur français François Delattre a comparé cette sélection à celle du pape, la fumée noire et blanche en moins. Son homologue britannique, Matthew Rycroft, a plaidé pour un secrétaire général fort. Selon lui, il est grand temps pour une femme d'accéder à ce poste, en précisant que l'origine géographique est le critère le moins important. Le suspense peut durer jusqu'en octobre. Le choix final sera entériné par l'Assemblée générale de l'ONU et celui ou celle qui va succéder à Ban Ki-moon prendra fonction en janvier prochain.
La coalition internationale contre le groupe État islamique a exprimé son espoir de reconquête de Mossoul en Irak, bastion des djihadistes qui multiplie les attaques dans le monde. La coalition s'inquiète désormais de ce qui se passera pendant et après la libération de la ville à majorité sunnite, mais qui compte aussi de nombreuses minorités.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Manifestation politique agitée en RDC à la fin de ce mois et mi-août 2016. L'opposition et la majorité présidentielle organisent prochainement des meetings à Kinshasa, la capitale. La mouvance vise la sensibilisation pour l'enrôlement au dialogue politique. L'opposition, quant à elle, ne parvient pas à se mettre d'accord sur l'agenda. Le reportage est signé Dominique Dinanga de Topo Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans le but de soutenir la campagne de sensibilisation de l'autorité morale sur la nécessité de l'enrôlement et du dialogue politique national et inclusif, la majorité présidentielle annonce la tenue d'un meeting le 29 juillet 2016 au stade Tata Raphaël, suivi d'une autre rencontre de ce genre le 7 août 2016 à l'esplanade du Palais du Peuple.
C'est en ces termes que s'est exprimé le porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atondou, au sortir d'une réunion de la famille politique du président Joseph Kabila. De manifestations populaires à Kinshasa, alors que l'opposition projette elle aussi un meeting populaire le 31 juillet. Meeting qui sera tenu par l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, après plus d'une année en dehors du pays pour raison de santé. Étienne Tshisekedi a été désigné président du comité des sages du rassemblement, une structure mise en place à l'issue du conclave de Genval. Mais cette manifestation est loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition. Le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, par exemple, s'est dit non concerné par cette manifestation. Fidel Babala est secrétaire général adjoint du MLC.
Est-ce qu'il faut que le MLC rejoigne un rassemblement sur lequel nous ne sommes pas d'accord? On est en train de parler d'un meeting des 31. Personne n'a saisi les MLC. Le MLC ne sait pas qui va le faire, comment ça va se faire et quand ça va se faire. Donc, le MLC n'est pas concerné par ces meetings.
Argument rejeté par le secrétaire national de l'UDPS en charge de la communication, Augustin Kabouya.
Le MLC ne s'est jamais présenté comme un parti politique disponible pour marcher avec les autres. Mais tout parti politique qui se sent vraiment de l'opposition, il voit directement qu'il est concerné par cette activité du 31 juillet. Avancer de tels arguments, ce sont des prétextes qui ne tiennent même pas debout.
Par contre, plusieurs partis et regroupements politiques de l'opposition, dont le G7 qui soutient la candidature de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe, promettent de participer au meeting du 31 juillet. La Convention des démocrates chrétiens, un autre parti de l'opposition, projette même un meeting populaire pour baliser le chemin à celui du rassemblement. Moussa Kayembe est président de l'interfédérale de la CDC dans la ville-province de Kinshasa.
La manifestation aura lieu au stade Vélodrome le dimanche 24 à partir de 11h au stade Vélodrome. Donc on est partie prenante au meeting du 31 juillet à Kinshasa.
Dans un contexte politique dominé par un éventuel dialogue politique pour résoudre la question des élections dont la tenue est impossible dans le délai constitutionnel, selon la commission électorale, il faut signaler tout de même que la fin du mois de juillet sera très agitée avec cette série de manifestations populaires. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Des couveuses pour nos anges est le slogan baptisé à la campagne lancée par deux jeunes Burkinabés, Madame Raissa Compaoré et Alain Traoré dit Alino Faso. Cette campagne est née d'un drame, la mort de deux jumelles prématurées à cause de l'insuffisance des couveuses dans les hôpitaux à Ouagadougou. La campagne entend récolter 15 millions de francs CFA pour avoir 6 couveuses. Zoumana Wanogo à Ouagadougou pour VOA Afrique a les détails.
C'est pratiquement avec les larmes aux yeux que Mme Raissa Compaoré est revenue sur le jour où elle a été interpellée par une famille qui venait d'avoir des bébés prématurés.
Nous sommes allés à la recherche des couveuses dans toute la ville de Ouagadougou, les grands hôpitaux, dans les cliniques, les plus grandes cliniques, les plus petites cliniques. Nous avons fait le tour, il n'y avait pas de couveuses. À l'hôpital Yalgado, qui est le plus grand centre de santé urbain au Burkina Faso, il n'y a que 2 couveuses. Arrivé même dans la salle même où étaient internés les bébés, il y avait 5 bébés dans une seule chambre. Une petite chambre comme ça, avec un ventilo. Il n'y a que 4 couveuses à l'hôpital Blaise Compaoré, l'un aussi des plus grands hôpitaux du Burkina. Nous n'avons pu avoir des couveuses que le lendemain. Donc 34 heures d'attente, ce qui n'a pas été facile pour des bébés qui étaient déjà en difficulté respiratoire. Malheureusement, ce qui a suivi, les deux jumelles sont mortes le lendemain.
Face à cette situation, une campagne est lancée pour achat de couveuses depuis le 11 juillet. Alain Traoré, à l'Inofaso, co-initiateur de la campagne, fait le point des contributions.
Nous sommes pratiquement à 2 500 000 au jour d'aujourd'hui en termes de contributions. Et c'est clair que ça paye une couveuse, mais nous en voulons 6. Donc il faut encore redoubler d'efforts pour que nous ayons les 5 autres couveuses. Et c'est pour cela que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, aux opérateurs économiques, à tous les fils de ce pays-là.
Malgré la noblesse de cette campagne, il y en a qui estiment que c'est à l'État d'acheter les couveuses pour les centres de santé. En réponse, voici ce qu'en dit Alain Traoré à l'Inofaso.
L'État, ce n'est pas simplement le président Roch-Marc-Christian Kouabouré, ce n'est pas son premier ministre, ce n'est pas les députés, ce n'est pas les maires. Donc, il faut que nous mettons une chose en tête. Il est temps éventuellement, très souvent, de se demander « qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays ?» au lieu de se dire tout le temps « qu'est-ce que mon pays a fait pour moi ?» Donc aujourd'hui, c'est une action citoyenne qui va permettre d'avoir 6 couveuses. Ce n'est certes pas énorme 6 couveuses, mais je peux vous dire que pour les différents témoignages que nous recevons des parents qui ont perdu des enfants, j'en suis également victime, je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux.
Sur ce point, apport de l'État, Mme Raissa Compaoré a dit ceci.
Il faut que nous prenions ce problème-là à bras le corps. Il ne faut plus qu'un bébé meure parce qu'il n'a pas eu de couveuse. Le peuple américain, le peuple français, le peuple italien, ils ont cotisé, ils ont construit des routes pour nous. Ils ont cotisé, ils ont équipé nos hôpitaux. Et même des écoles. Pourquoi nous, on ne peut pas cotiser aussi pour nous aider? Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est vrai que nous sommes pauvres, mais vous savez que la solidarité est l'un des caractères même de l'Africain. Mais quand il s'agit d'un organe de l'État, on trouve toujours que non, c'est à l'État de faire.
La campagne, dit-on, va continuer jusqu'à l'obtention des 15 millions de francs CFA qui vont permettre d'acheter les 6 couveuses. Zoumana Wounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
En Guinée, les journalistes s'intéressent à la question de l'environnement. L'Association des journalistes pour le développement durable fait de la lutte contre la nature son combat. Les forêts classées ne représentent que près de 5% du territoire guinéen et l'association s'engage pour jouer pleinement son rôle. Zakaria Camara a les détails.
L'environnement est leur terrain de prédilection. Alassane Hilal Sylla et ses confrères sont partis d'un constat qu'ils considèrent alarmant.
Nous avons remarqué que les citoyens n'étaient pas suffisamment intégrés sur les questions de respect de l'environnement. Nous avons remarqué aussi que nous avons délaissé. Donc tous ces constats ont fait que, non seulement au niveau des journalistes, mais aussi au niveau des citoyens, ont fait qu'on s'est dit de mettre en place une association.
Une association, ce sont des actions, et celle de l'Association des journalistes pour le développement durable repose entre autres sur les communications dans les médias.
Nous avons dans la mission de l'association de mener des actions de plaidoyer concernant des points précis où l'environnement n'est pas respecté. C'est notamment récemment le cas de la forêt de Kakimbo, où nous avons fait un document de plaidoyer que nous avons adressé au ministre de l'Environnement pour interpeller son attention par rapport à cette forêt qui est en train de s'effriter. Mais derrière aussi, c'est l'objectif d'éducation. Donc vous constaterez que nous partons de l'éducation au plaidoyer en passant par l'aspect journalistique pour vraiment montrer, pointer du doigt les réalités environnementales dans notre pays.
Les réalités sont celles qui présentent une dégradation poussée de l'environnement. Chaque année, la Guinée perd 35 000 hectares de forêt. Face à un tel constat, la JDD s'engage pour la sensibilisation. Mme Fatoumata Diallo, membre de l'association.
Nous sommes beaucoup plus basés sur la sensibilisation, la communication, puisque c'est notre domaine. Nous sommes a priori tous des journalistes dans cette association. Nous œuvrons pour un développement durable, chose qui passe nécessairement par la protection de l'environnement. Nous avons organisé des journées de l'environnement où nous avons appelé les citoyens à être plus responsables envers l'environnement qui nous entoure.
Le gouvernement guinéen a décidé de lancer une vaste campagne de reboisement et de restauration des forêts. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
La Banque centrale sud-africaine a revu hier à la baisse ses prévisions de croissance pour 2016 à 0% contre 0,6% auparavant, alors qu'un fort taux de chômage, une grave sécheresse et l'incertitude créée par le Brexit pèsent sur l'économie la plus industrialisée du continent. Au Cameroun, Arab Contractor décroche un contrat de 28 milliards de francs CFA. La société égyptienne de BTP s'est vue attribuer le marché de construction d'un tronçon de la route transfrontalière allant de San Melima au Cameroun à Weso au Congo. 651 kilomètres devront être bitumés, 316 du côté camerounais et 335 côté congolais. En Côte d'Ivoire, plus de 20 000 hectares de cacao ont été ravagés dans le sud et le centre du pays. Depuis le début du mois, en effet, des milliers de chenilles ont déferlé dans les plantations. Les autorités ivoiriennes ont pris l'affaire au sérieux et disent avoir jugulé la menace. Le cacao représente environ 15% du PIB du pays. La Côte d'Ivoire est par ailleurs premier producteur mondial de cacao avec près de 45% du marché.
Merci John pour la Minute Éco. Votre page sportive à présent avec Eddy Issango. Bonjour Eddy.
Bonjour Eric.
Total, aux côtés du foot africain à la place de Orange.
Les géants pétroliers français deviennent les sponsors principaux des compétitions majeures du football africain. La Coupe d'Afrique des Nations en tête pour les 8 prochaines années. C'est ce qu'on a appris de la Confédération africaine des football, CAF, et Total dans un communiqué commun. Précédemment, c'est l'opérateur téléphonique français Orange qui sponsorisait les principales compétitions internationales du continent africain depuis 2009. Outre la CAN, Total va notamment parrainer la Ligue des champions d'Afrique, la Coupe de la Confédération, la Supercoupe, les championnats d'Afrique des Nations, CHAN, avec des joueurs évoluant en Afrique ou encore la CAN féminine.
Dopage, l'agence américaine antidopage pour l'exclusion de la Russie aux Jeux Olympiques.
Oui, bien sûr, l'USADA a réagi jeudi à la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, confirmant l'exclusion de l'athlétisme russe des JO 2016. L'USADA exhorte les CIO à priver totalement la Russie du rendez-vous des Rio en août prochain. C'est une situation triste pour tous ceux qui aiment les sports, en particulier les athlètes russes qui ont été abusés et punis pour les actions de leurs responsables. Mais c'est la bonne décision, a déclaré Travis Tigar, le patron de l'USADA, à propos de l'appel des athlètes russes rejeté par les TAS. Les CIO doivent exercer son autorité en suspendant les comités olympiques russes tout en permettant aux sportifs russes qui peuvent prouver qu'ils sont propres de participer aux Jeux, a-t-il conclu. Jeudi, l'État a rejeté l'appel du comité olympique ROC et des 68 athlètes qui demandaient à participer aux JO 2016 après avoir été suspendus par la Fédération internationale d'athlétisme, IAAF.
Parlons des transferts maintenant. Eddy, en Angleterre, une nuance par rapport à ce qu'on disait hier. Pogba n'est pas encore à Manchester United.
Les plus gros transferts de l'histoire n'est pas encore officiel. C'est un démenti de l'agent de Pogba, le très influent Mino Raiola. Il nie tout accord entre la Juve et les Red Devils. Alors que depuis mardi, la presse italienne, relayée hier par son homologue britannique, dévoile en effet un luxe de détails sur les offres de Manchester United pour arracher à la Juventus les finalistes de l'Euro 2016.
C'est tout pour les sports. Merci, Eddy.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Et eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation sur notre page Facebook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité, la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Eric Manirakiza au studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.